Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin, épisode 10. This is it.
Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend.
Hey guys, bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Apprendre le dessin. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire avant de passer à l'interview du jour. Parce que tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'avez envoyés suite à mon film sur Michael Jackson. Ça m'a fait trop plaisir, je m'attendais pas du tout à une telle réaction. Et au moment où j'enregistre le podcast, on est à peu près à 5000 vues en 15 jours. Donc c'est un record pour ma chaîne pour l'instant. Bon alors, encore merci, trop merci. Et j'ai une bonne nouvelle, je vous annonce qu'il y a les sous-titres anglais qui arrivent pour le film. Quelqu'un s'est gentiment proposé de m'aider pour traduire le film et mettre les sous-titres sur YouTube. Donc voilà, a priori ça sera courant la fin du mois ou le mois prochain. Et le film sera accessible du coup au monde entier. Donc un grand merci à Cindy Marin-Martelas qui m'aide en ce moment même à traduire tout le film. Avant que j'oublie, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, il y aura le tirage au sort du gagnant du dessin de Anna Lubinsky. Donc restez bien jusqu'au bout. Autre bonne nouvelle, maintenant que j'ai accouché de cette montagne, de ce méga vlog, je vais enfin pouvoir me remettre sérieusement aux vidéos de dessin, aux tips, etc. Ça va être cool. Sur la page Facebook, les Artists of the Day ont repris. Tous les jours, vous pouvez découvrir un nouvel artiste. Et en parlant d'artiste, l'artiste que je reçois aujourd'hui dans le podcast est incroyablement talentueuse. Il s'agit de Sophie Zouran, que vous avez peut-être découvert dans le vlog sur Michael Jackson. Celle qui a réalisé le tableau que vous voyez à la fin de la vidéo. Il est absolument magnifique, puis maintenant il est accroché dans mon salon. J'ai pu lui donner un nom, je l'ai nommé Learn from the Greats. Si vous regardez le méga vlog, vous comprendrez. Par contre, Sophie, si tu écoutes le podcast, t'as oublié de me le signer, donc va falloir qu'on corrige ça, parce que si je dois le revendre dans plusieurs années pour des millions de dollars, il faut qu'il soit signé, tu vois. Dans le podcast, on va parler de son parcours, de son travail d'animatrice, parce que Sophie est une des rares animatrices à avoir été directement embauchée en tant qu'animatrice main après le stage de MacGuff. Alors, en tout cas, c'était la première. Et on va parler de ça, on va parler de ses autres passions, notamment de la peinture à l'huile évidemment. On va parler de Nicki Minaj. Donc bon, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Donc voilà, on est parti. Sophie Zouran est dans le podcast Apprendre le dessin. Salut Sophie.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Alors c'est la première fois que je vais faire un podcast où j'ai préparé aucune question. Mais je commence.
Sympa.
À... Ouais, c'est cool. Hein.
Ça me met super à l'aise.
Bah oui, comme ça c'est plus une discussion tranquille.
Ouais.
On vient de tourner un peu le vlog là, parce que t'es en train de faire un tableau pour le vlog sur Michael Jackson.
Mm-hmm.
Donc merci hein, de faire ce,
ouais,
ce
pas truc. Problème. Merci à toi. Hein.
Bah, c'est super, en plus j'avais découvert tes peintures du coup sur ton... C'était sur Facebook, je pense que t'avais partagé de la peinture des Tortues Ninja.
Ouais.
Donc on va parler de tout ça, mais on va revenir au début. Tu viens d'où, t'es né où, et en fait, quand est-ce qu'est venu le dessin dans ton enfance?
Alors, bah, moi je suis née à Soissons, donc c'est une ville au nord de la France, pas très loin de Paris. Et en fait, dans ma famille, ma mère s'est dessinée, toute sa famille s'est dessinée. Du côté de mon père, c'est zéro, personne s'est dessinée. Et quand j'étais petite, en fait, je dessinais énormément avec ma mère. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se partageait les dessins, on se faisait limite des BD en fait. Genre elle dessinait, elle aimait bien dessiner les personnages à la Disney. Elle a toujours voulu justement travailler dans les dessins animés Disney, coloriste et tout, ça lui plaisait bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de formation pour ça.
Elle est devenue ou pas?
Ah, pas du tout. Ma mère, elle n'a jamais pu faire ça. En fait, d'ailleurs, elle est très heureuse de ce que je fais maintenant, puisque elle, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire, rêver de faire. En fait, à l'époque, c'était très mal vu de dessiner comme ça, juste pour le loisir. Elle me raconte toujours une anecdote où, en fait, quand elle était jeune, elle dessinait. Et il y a sa mère qui arrive derrière elle, comme ça, et qui fait « C'est quoi ça ?» C'est le dessin. Enfin, tu vois, genre, c'est pas du travail, quoi. Et enfin, du coup, elle dessinait pas.
En cachette, quoi. Presque.
Bah, ouais, elle dessinait comme ça. Puis en plus, de toute façon, il y avait pas vraiment de challenge, elle me disait, parce qu'il y a tout le monde qui savait dessiner dans sa famille. Donc, quand tu montrais un dessin, ils étaient là, ouais, c'est bien et tout. Tu vois, donc.
Ouais, d'accord.
Enfin, voilà. Et donc, du coup, elle dessinait les personnages. Et moi, je dessinais des animaux en général.
Et tu...
Et puis on faisait des genres d'associations, tu vois, elle dessinait une femme qui faisait, je sais pas, qui promenait son chien, et moi je faisais le chien, enfin tu vois. Et enfin voilà, et du coup, enfin, je dirais, grâce à ma mère, ben, elle m'a initié un peu au dessin.
T'as baigné dedans tout de suite en fait alors.
Ben en fait ouais, moi je me souviens, j'étais sur la table de ma cuisine, j'étais petite, puis on était là, on dessinait toutes les deux, franchement c'était super. Et alors, ce que je faisais beaucoup aussi, c'est que quand j'étais à la maison, par exemple, pendant les grandes vacances, j'allais au centre aéré, mais des fois, je restais à la maison. Et ce que j'adorais faire, c'était regarder la télé, et il y avait les téléfilms de l'après-midi, là, enfin, les machins sur M6, là. Tu sais, l'été, il y a les téléfilms
ouais,
et tout, machin.
Pour enfants, un peu. Pour les jeunes.
Non, tu sais, c'était des téléfilms, genre, allemands, tu sais, enfin, le truc allemand, le truc un peu cheap et tout, là. Qui passe l'après-midi, genre une histoire d'amour, enfin je sais plus, enfin il y avait trois téléfilms.
Des trucs qualitatifs quoi.
Ouais, et moi, ma mère, donc elle était tout le temps là parce que ma mère elle a jamais travaillé en fait, elle s'occupait de nous et tout. Mm-hmm. Et elle était là, elle nettoyait la maison machin. Et moi j'étais sur la table de la cuisine pareil, et en fait j'avais la télé et je dessinais en fait. Et je faisais des trucs.
Que tu voyais la télé ?
Non, je dessinais. Alors je dessinais des trucs un peu gore.
Mm-hmm.
Et j'ai même demandé. Ouais, je dessinais des chiens, genre des cerbères avec des cadavres d'antilopes sur le côté. J'ai même demandé à ma mère. Tu t'es jamais demandé genre si j'avais un problème.
Elle t'emmenait chez le psy.
Ouais, c'est ça. Elle me fait non, moi quand j'étais petite, je dessinais ça aussi, des lions et des grandes dents. Enfin bref.
Ouais, donc c'est de famille.
Ouais. Du coup, voilà, j'ai toujours aimé dessiner, même des illustrations, des petites histoires en une illustration.
Ouais.
Ouais. Genre un dragon qui. Par exemple, je me souviens d'un dessin que je faisais, c'est un dragon qui avait une valise. Et en fait, on voyait des mains et des jambes dépasser de la valise et genre je sais pas, enfin il était là, il était content, il partait en vacances, enfin je sais pas quoi.
Parce que c'était sa bouffe.
Ouais, je sais pas, enfin il avait dessiné des gens, enfin que des petits trucs comme ça, beaucoup de dragons, je dessinais beaucoup de dragons à l'époque.
Et du coup, tu t'es dit tout de suite que c'était, tu voulais en faire un métier quand t'étais enfant ou...
Bah ouais, en fait. Après, moi, je connaissais pas vraiment les métiers qui pouvaient déboucher sur le dessin. Mm-hmm. Quand j'étais au collège, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était « Oh, bah, je vais faire prof d'art plastique, tu vois. »
Ah ouais.
C'est la première chose qui m'est venue à l'idée parce que, bah, tu vois, j'étais au collège, je savais pas ce qui pouvait exister comme métier. Et après, comme j'aime beaucoup le jeu vidéo... Il y a un jeu en vidéo en particulier qui m'a donné envie de faire un métier, c'est character designer. Tu fais les personnages, tout ça.
Et comment tu l'as découvert ce métier-là ?
Et bien justement, en fait, grâce à God of War, le jeu vidéo, j'étais tellement à fond que en fait, j'ai regardé les artbooks, tout ça, les dessins, les livrets. Tu sais, à l'époque, c'était livré dans les jeux vidéo, là, les boîtes. Et je recopiais en fait les concepts, les concept arts des personnages et tout. Et c'est là, après, je me suis renseignée et je me suis dit « Ah, c'est ça que je veux faire, c'est du dessin dans les jeux vidéo, en fait. » Je connaissais pas vraiment le terme avant.
Character designer.
Ouais, je connaissais pas trop le terme. J'étais en quatrième. En fait, moi, dès la quatrième, troisième, je savais ce que je voulais faire. C'était ça. Je voulais faire ça, je voulais faire du dessin pour les jeux vidéo. Mais je voulais pas faire 3D. Ça, c'est un truc qui me répugnait. Genre, j'étais là, non, la 3D, c'est nul, je veux pas être dans la 3D, quoi. Et en plus, je connaissais...
Pourquoi ?
Bah parce que, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, tu vois, concept art, tout ça, j'ai regardé un peu, tu vois, de ce qui découlait dans ce métier-là, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs en 3D qui se faisaient, tu vois, enfin... Et ça m'attirait, mais pas du tout, quoi. Tu sais, les trucs sur ordinateur, comme ça, pour moi, c'était... Enfin, c'était un peu flou, tu vois. Pour moi, je voyais des trucs sur ordinateur un peu moche, tu vois, tu sais, pour l'époque et tout. Ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Moi, je voulais vraiment rester dans la 2D, le dessin. Et du coup, donc dès la troisième, je savais ce que je voulais faire. On a même été dans un... Tu sais, le conseil d'orientation, là.
Ouais.
J'ai eu un rendez-vous avec... J'y ai été avec ma mère et tout. Ma mère, elle me soutenait à fond. Elle m'a soutenue depuis toujours, en fait.
Pour faire un métier.
Ouais, parce qu'en fait, comme elle s'est toujours dit, moi, je veux que mes enfants aiment ce qu'ils fassent comme métier, tu vois.
Ouais.
Donc du coup, elle m'a toujours soutenue. Puis elle, en plus, comme elle a un peu la fibre artistique, tu vois, elle sait ce que c'est. Elle a toujours voulu faire ça aussi. Elle voulait vraiment pas... Elle voulait pas que moi je subisse ce qu'elle a vécu dans son enfance, tu vois, un peu frustrée et tout.
Ouais, ouais.
Et donc, on m'a dit, enfin, à l'époque, que c'était un peu compliqué. Et en fait, donc j'étais au collège.
Mmh.
Et du coup, au lycée, je me suis orientée vers un bac SCI, art appliqué. Donc vers
d'accord.
Le dessin.
Ouais, 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 quand même.
Bah, à l'époque, oui, je crois que... Parce que, tu sais, je me souviens, donc t'avais bac L, bac S... Bac ES, ce que j'ai failli faire d'ailleurs, parce que mon père était pas du tout pour que je fasse un bac STIR appliqué, parce que il avait peur en fait. Il se disait qu'est-ce qu'elle va faire comme métier. Lui il me voyait en fait dans les rues de Montmartre faire des dessins, enfin pour lui c'était... Alors lui tu vois, mon père c'est vraiment, pour lui c'est totalement inconnu ce genre de métier, c'est enfin ouais, c'était un
beaucoup
peu
de gens hein, c'est un peu...
Ouais, c'est un peu comme les parents de ma mère, tu vois, c'est pas concret en fait, tu vois, c'est du vent quoi, c'est pas...
Tu peux pas gagner ta vie avec,
ouais, c'est ça, voilà.
C'est un loisir,
ça
quoi.
Paraît compliqué de gagner sa vie avec quoi. Mais ma mère elle a soutenu, elle a fait si machin, et du coup j'ai pu faire de justesse, ce bac STIR appliqué.
Ça, ça arrive souvent que les parents ou les d'autres générations avant comprennent pas, enfin, considèrent que les métiers qu'on fait, c'est des métiers un peu dangereux, intermittents du spectacle, tout ça. Avec le recul, t'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est justifié, cette peur, ou en fait, après tout, c'est un métier comme un autre, si tu fais des études et que tu travailles, donc du coup, que t'es quand même bon dans ce que tu fais, bah, tu vas trouver du travail et tu vas pouvoir vivre assez facilement. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu disproportionné, cette peur des métiers artistiques.
Moi, le fait d'être intermittent de spectacle, tu veux dire?
On peut le dire
parce
comme ça.
Parce que, après, nous, c'est différent parce que tu sais, t'as les intermittents de spectacle qui travaillent dans le théâtre.
Ah, c'est sûr,
ça.
Non, c'est pas pareil. Je parle
tu
vraiment
parles de, dans le
dessin.
Dessin, cinéma, ouais. Animation, tout ça, ou même cinéma. Et ben, moi, je pense justement que c'est une chance en fait. Moi, pour rien au monde, par exemple, je prendrais un CDI. Parce que je trouve qu'en fait, intermittent du spectacle, justement, tu peux déjà faire ce que tu aimes déjà comme métier. Mais, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, tu t'es pas contraint en fait, tu vois, toute ta vie tu vas pas faire la même chose. C'est très varié en fait.
Ouais.
Dans notre métier, on est là, on est sur une prod qui dure un an et demi ou tout au plus, tu vois. Après, bon, bah voilà, c'est comme. En fait, faut pas croire, mais c'est quand même assez psychologiquement intense comme métier. Enfin, je veux dire, on se donne quoi, tu vois. Et on fait. Enfin, on travaille beaucoup et du coup, après, on peut prendre des vacances, tu vois. Et on est un peu libre, tu vois, par rapport à ça. Alors ok, on n'a pas les avantages du CDI, du genre vacances payées, RTT, je sais pas quoi, là, enfin...
Les
13e mois ou je sais pas quoi, enfin... Mais moi, je trouve que si tu...
Tous avantages.
Alors le problème, c'est aussi, c'est que je pense que si tu te démerdes bien dans ton métier, si t'es bon, en fait, le fait d'avoir peur, de pas avoir de travail après, je pense que ça va, en fait. Puisque comme t'es bon, tu vas être demandé, en fait. C'est vrai que pour les gens qui se lancent là-dedans et que bon, ils ont encore un peu de mal, tu vois, ils ont besoin encore d'expérience pour, tu vois, se faire au métier, tout ça. C'est vrai que je comprends que la peur soit justifiée.
En fait, je pense que cette peur, elle vient de l'idée de qu'il faut du talent, que si t'as pas de talent, tu vas être un artiste qui va jamais réussir. Et ils oublient toujours cette notion de travail. Et quand les parents, ils sont toujours rassurés si tu vas faire études de médecine, tout ça. Mais bon, t'as 10 ans de médecine où tu vas apprendre un métier, où tu vas apprendre ce sur quoi tu vas bosser. Donc, c'est la même chose avec les métiers d'art. Tu vas faire des études, tu vas travailler, tu vas dessiner tous les jours et tu vas devenir bon, en fait. Donc, il y a cette idée de talent qui, du coup, à mon avis, fait peur aux anciennes générations, peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on a cette image de métier à risque. Parce que si tu réussis pas, si ton travail plaît pas aux gens, tu vas pas gagner d'argent. Mais ça marche pas comme ça en vrai. C'est plus safe que ce que certaines personnes pensent.
Oui, en fait, dans les écoles, on apprend un savoir-faire finalement. Tu vois. Par exemple, les écoles de 3D, exemple. C'est un savoir-faire que tu apprends parce que tu apprends les logiciels, tu apprends tout un tas de trucs qui vont faire que tu vas pouvoir travailler dans telle et telle boîte qui utilise justement ce logiciel et que y a personne d'autre qui peut le faire puisque tu as fait une formation pour justement. Donc oui, en fait, c'est... Ah, mais je pense que c'est encore très très méconnu. Tu vois, c'est un peu comme le métier de youtubeur finalement, tu vois. Youtubeur, au final, les gens, ils sont encore là en train de se dire mais ça, c'est pas un métier.
T'as un diplôme ou pas? Enfin, un diplôme.
Mais oui, enfin, c'est ça, tu vois. Donc, je pense que. Mais petit à petit, peut-être que ça va. Enfin, les gens ont peut-être moins peur de se dire il veut faire du concept art dans le jeu vidéo. Ou même travailler dans le jeu vidéo, tu vois. Moi, je disais travailler dans le jeu vidéo, tu vois. Les gens, ils rigolaient.
Je veux faire du dessin animé.
Ouais, bah voilà. Mais du coup, les gens, ils se demandent quoi, dessin animé, ou même, tu te dis, ou alors...
Après, surtout, alors, je sais pas, du coup, quel âge tu as, mais t'as quel âge?
Il a 27 ans.
Ouais. Non, mais moi, quand j'étais gamin, il y avait que Disney, tu sais. Il y avait pas encore la 3... Enfin, ça arrivait vraiment en 96 avec Toy Story, mais il y avait pas encore tout ce nouvel âge d'or de la 3D. Donc, à l'époque, il y avait vraiment l'idée où si tu fais du dessin animé, tu vas à Disney, ou tu bosses pas, ou alors tu fais des petites séries, peut-être... Tu vois, Albert le cinquième mousquetaire, truc comme ça.
Les petits trucs.
Mais ce qui est cool, hein, j'adore Albert. Mais mais il y avait cette idée qu'en gros, t'as le Saint Graal, Disney, et puis t'as rien d'autre. Avec la 3D, il y a eu une explosion, en fait, qui a donné beaucoup de boulot aux gens, en fait. Et ça a fait moins peur, je pense, après.
Ouais, c'est encore un peu le cas maintenant, en tout cas pour les étudiants. Le Saint Graal, en tout cas pour les gens qui travaillent dans le cinéma d'animation, par exemple. Le Saint Graal, ça reste quand même pour les étudiants, Pixar, Disney, tu vois, les gros trucs qui ont aussi fait notre enfance, tu vois. Tu vois, c'est un peu un rêve d'enfant de se dire, putain, moi je travaille.
Il y a d'autres options.
Et moi, par exemple, je te le cache pas que quand j'étais étudiante, c'était le Graal pour moi, tu vois. Enfin, c'était l'un de mes objectifs, c'est aller à Pixar ou à Disney.
Ouais.
Et en fait, plus je travaille dans l'animation, et plus je me dis que non,
ouais.
Je suis très bien là où je suis maintenant. Ouais. Je préfère rester en France avec là où je travaille, c'est parfait, tu vois. Mais moi, je comprends que pour les étudiants qui sortent d'école, ils sont là, ils veulent vraiment toucher à la perfection. Parce que c'est vrai que quand tu regardes un Disney ou un Pixar, c'est quand même... Enfin, les gars, ils savent écrire les histoires quand même. Enfin, je veux dire, ils sont pas... C'est pas les blaireaux, quoi.
Ouais. Bah là, revenons un peu à... Du coup, quoi, après ton bac,
ouais.
Du coup, t'as commencé direct dans une école. T'as fait une prépa, t'as fait...
Alors, donc, après mon bac, moi, c'était toujours aussi clair. Je veux travailler dans les jeux vidéo.
Ouais.
Donc je commence à regarder des écoles, c'est à ce moment-là en fait où tu cherches les écoles en ligne et tout là, enfin tu te renseignes et tout machin. Et problème, toutes les écoles qui font ça sont à Paris.
Ouais.
Et moi mes parents c'était hors de question que j'aille à Paris.
Ah,
ils voulaient pas, non.
Okay.
Ils étaient là, non.
Tout
seul. Ouais bah oui. Moi j'habite dans c'est une ville de campagne moi là où.
Mais
t'avais
quel âge?
Bah j'avais l'âge de quand j'avais fini le bac, alors j'ai redoublé, j'ai dû repasser, mais du coup je devais avoir, je sais pas, 18 ans.
18 ans, majeur.
Ouais. Oui, ouais, mais majeur, t'es une peine marrée toi. Quand t'es étudiant, bon, les parents, que tu sois majeur ou pas, ça reste quand même,
okay,
tu vois. Okay. Enfin, pour mes parents en tout cas, c'était, en fait, le problème c'était Paris, donc t'avais la ville, t'avais, c'est super grand tout ça, ils avaient un peu peur de ça, et c'était le logement, l'argent surtout, enfin moi j'étais étudiante, mes parents, mon père il est ouvrier, ma mère était, voilà, elle s'occupait de nous, elle avait pas de travail et tout, donc elle s'occupait de ses enfants, donc voilà, donc t'avais l'argent aussi, les loyers à Paris, voilà, c'est très cher, et ma mère était là, elle me faisait marrer parce qu'elle me disait, oh il y a sûrement une école dans le coin, enfin, elle était à milieu de savoir que c'était... Non, tout se passe à Paris, tu vois.
Du coup, t'as fait quoi?
Eh ben, j'ai cherché très longtemps. Ouais. Et à un moment donné, j'ai trouvé une école à Amiens.
Ouais.
Donc, ville plutôt sympa.
Mm-hmm.
Mais qui faisait de la 3D.
Ouais. C'est quoi, les balles?
Wedsum.
Ouais.
Wed, comme la fleur.
Ok.
Fleur bleue, enfin bref. C'est une école publique.
Ouais.
En fait, qui est rattachée à une école d'art qui s'appelle l'ESAD. Donc les ZAD d'Amiens, ils font de la calligraphie, enfin ils font tout un tas de trucs. Et en fait, cette école-là est rattachée. Donc les ZAD, normalement, je crois qu'elle est publique, cette école. Donc Wedsum est aussi publique. Donc c'est quoi? Ça doit être 800 euros l'année, un truc comme ça.
Mm-hmm.
Je crois que c'est comme une fac, enfin bref.
Ouais, c'est pas cher.
Ouais. Bah, contrairement à toutes les écoles qu'il y avait sur Paris où c'est, je sais pas, 3-4 000 euros l'année.
Bah, c'est public, quoi.
Voilà. Donc c'est du public. Coup, je fais. Bah, moi, j'étais pas au courant de tout ça, en fait.
Ouais, ouais.
Donc je faisais des recherches, tout ça. Bon, c'est vrai que j'avais vu les prix des écoles à Paris, je fais, allez, quand même, c'est cher. Là, 800 euros l'année, bon, déjà, ça va plus tout de suite à mes parents, tu vois.
Mmh.
Je regarde un peu le programme et je me dis, ouah, non, ils font de la 3D, tu vois. Et moi, la 3D, c'est mort, je voulais pas en faire, c'était hors de question, quoi. Et au final, bon, on y a été, on a eu un entretien, moi j'étais avec ma mère, tout ça, machin, on a vu le directeur pédagogique, très gentil, Philippe Babi. Et en fait, l'école était nouvelle. Elle venait d'ouvrir il y a. Elle venait d'ouvrir, en fait. Et en fait, au début, ils formaient que les gens. Qui était en soit chômeur, soit ils voulaient se réorienter. Donc c'était une formation de 9 mois. Donc il y avait des intervenants qui venaient, enfin qui connaissaient un peu les logiciels, tout ça, et donc du coup, les gens qui venaient là-bas pour faire la formation, en fait, ils faisaient. L'objectif c'était de faire un court-métrage, un petit court-métrage. Voilà, je sais pas.
Toujours sur toute ta formation
En fait, tu apprenais tout le spectre sur la 3D, c'est-à-dire que tu apprenais. Donc, à faire ton perso, à modéliser le personnage, à le riguer,
à
l'animer. Bah oui, justement, du coup, il y avait du concept quand même, tu vois. Enfin, il fallait vraiment que tu imagines tout de A à Z. Donc, tout ça sur 9 mois. Et le directeur pédagogique m'avait expliqué que maintenant, comme il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés par la formation, en fait, ils allaient ouvrir une formation qui allait se faire en 3 ans pour les étudiants. Donc, moi, je suis ah, mais super, parfait. Bon, bah, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, à l'époque, j'étais partante. Donc il n'y avait pas de concours, rien, c'était vraiment sur un entretien parce qu'en fait comme elle venait d'ouvrir, donc c'était vraiment tout nouveau quoi. Donc c'était ok, tu vois, moi j'avais juste montré mes dessins, tout ça, il m'a dit ouais si c'est cool, vas-y, on est chaud, tu vois. Et en fait j'ai loupé mon bac, et Et comme c'est une école publique, il faut le bac pour rentrer dans cette école. Et j'étais dépitée. Vraiment, parce que moi, mon lycée, j'en pouvais plus. Enfin, je voulais juste me casser, tu vois. Enfin, je voulais vraiment passer à autre chose. Et j'étais dépitée. Alors que pourtant, je voulais pas du tout faire 3D, tu vois.
Ouais.
Moi, je, tu vois. Et pourtant, ça m'avait mis. Tu vois, j'étais là, j'étais bien.
Voyais déjà de l'autre côté de la barrière.
Ouais, parce qu'en fait,
frontière du bac.
C'est ça, voilà. Et puis en plus, il m'avait expliqué que ouais, il y avait pas que de la 3D, tu vois. Enfin, vraiment, il y avait tout le spectre et tout, cinéma d'animation. Du coup, on avait un peu parlé de cinéma d'animation. Mais tu sais qu'à cette époque, moi, je n'avais pas du tout entendu parler d'animation, tu vois. C'était là, ouais, l'animation, dessin animé.
Ouais,
enfin, non, pour moi, c'était vraiment, c'était que dessin, tu vois. Bref, donc j'ai repassé mon bac, je l'ai eu, j'ai tout fait pour l'avoir, d'ailleurs. Et puis, c'est là que j'ai repostulé dans cette école-là. Et là, cette fois-ci, il y avait un concours d'entrée. Parce que, du coup, il y avait des gens qui étaient intéressés, qui avaient entendu parler de cette école, etc., etc. Bon, ça, je connaissais le directeur pédagogique, il m'avait reconnu. Il avait vu que j'étais motivée, donc c'est cool, tu vois. Et au final, j'ai réussi le concours et je suis entrée dans cette école. Donc c'est une classe de 12 élèves. Et il y avait en plus les gens de la formation en 9 mois. Donc en fait, on était ensemble, tu vois. Parce qu'il n'avait pas arrêté, en fait, la formation en 9 mois.
D'accord.
Donc ils étaient tous dans cette classe. Et en fait, il n'y avait qu'une promotion qui était...
Au-dessus de tout.
Et bah celle où je devais aller, normalement, si j'avais mon bac, tu vois. Mais en fait... Au final, je suis plutôt contente d'avoir loupé mon bac, on va dire, parce que déjà j'ai appris plus de trucs dans ma dernière année de bac, repassage de bac, que tu vois, j'avais vraiment travaillé, tu vois. Et surtout que la première promotion de mon école, du coup, Watson, c'était un peu une année crash test finalement, parce qu'ils avaient jamais. C'était la première fois en fait, donc il y a des trucs en fait qui allaient pas trop, tu vois, mais bon. Et au final, je tombe sur une bonne promotion. Enfin, il y avait des trucs cool. Il y avait des trucs qui nous étaient permis, qui ne sont plus maintenant d'actualité, voilà, dans les promotions là actuelles. Donc, je suis plutôt contente.
Comment ça s'est passé alors les 3 ans
de Watson?
Ouais.
Alors, c'est cool. Comme je te dis, on a appris vraiment tout le spectre de la 3D. Donc, pour le cinéma d'animation ou autre. Enfin, plus pour le cinéma d'animation quand même. Donc, on a appris les logiciels Maya, machin, voilà, animé, rigué. Et donc la première année, on devait faire une incrustation de... En fait, tu devais faire un personnage, tu devais l'incruster dans des images réelles, tu vois, donc la FX.
Ouais.
Et en deuxième année, tu devais faire ton court-métrage personnel, donc tout seul. Donc ça, c'est ce qui m'a plu beaucoup.
Un film par élève.
Exactement.
Ah ouais. C'était... Donc pas de travail d'équipe, alors?
Non, le travail d'équipe, c'était en troisième année.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, on avait le diplôme à la fin de la troisième année. Qu'on passait en groupe, du coup, on montrait notre film d'équipe. Et ensuite, on avait le choix. Donc, si on avait le diplôme, soit on faisait la 4e, 5e année pour le diplôme, soit on pouvait choisir. On pouvait faire un stage ou on pouvait arrêter, enfin, comme on voulait, quoi. Moi, j'avais décidé de continuer, mais dans l'objectif de faire un stage, en fait. Pour pouvoir... Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de ma promo, en fait, que dès la rentrée, dès septembre, ils avaient déjà trouvé un stage, tu vois. Et moi, en fait, dès la 4e année, en fait, t'es totalement autonome. T'as juste les intervenants qui viennent te checker un petit peu dans ta spécialité. Moi, du coup, je m'étais spécialisée en animation. Et ensuite, moi, j'étais sur ma bande démo. Genre, il fallait que je passe une bande démo, Voilà. Et au final, j'avais postulé pour faire un stage à Illumination MacGuff. J'ai été prise. Et voilà. Et ensuite...
Ouais. Donc, ça s'est enchaîné parce que, du coup, t'as été embauchée à la suite du stage.
Ouais.
C'est là qu'on s'est rencontrés.
Ouais.
Et tu. Donc, comment ça s'est passé le stage à MacGuff?
C'était cool. Moi, je suis arrivée en stage. C'était sur La Vie des Bêtes, Secret Life of Pets. Secret Life of Pets. C'est oui, bizarre, mais je le dis en français. Ouais, Pets. Ouais. On dit Pets. Mais c'est
comme des bêtes en français.
Comme des bêtes en français, ouais. Comme des bêtes, oui, c'est ça, je crois que c'est comme des bêtes. Donc, c'est cool parce qu'en fait, moi, notre film de fin d'année en groupe. C'était un tigre, un genre de tigre avec des plumes, là, qui se baladait dans un univers désertique, et qui faisait des pirouettes, machin, enfin, qui courait comme un jaguar, un tigre, enfin bref, un félin, quoi. Et du coup, moi, ma bande démo, j'avais plein de body mécaniques sur ça, en fait. Et quand j'ai postulé à Guff sur le film, là, Secret Life of Pets, ils ont vu que je faisais de la body mécanique d'animaux, donc ça tombait pile poil, en fait.
Ouais.
C'était la chance incroyable, quoi. Donc voilà, donc j'étais en stage. Au début, je faisais je touchais au rig. Ils m'ont donné les persos et moi j'animais. Je faisais des poses, en fait. Et Et ensuite, ils m'ont mis en crowd. Donc, je faisais des trucs de crowd, des chats, des... Enfin, j'aidais les gens de la crowd, quoi.
C'était avec Florent.
J'étais avec Florent de la taille.
Ouais.
J'étais avec Florent de la taille. C'était cool, hein. Bah, pareil, en fait, mon apprentissage en animation continuait, au final. Et ensuite, alors, un jour, je suis arrivée, j'avais fini, j'avais tout fini, ce que je devais faire. Et c'était le matin. Et je me dis, j'ai plus rien à faire. Et là, je vois le directeur d'anime qui arrive et qui fait la bise à tout le monde, c'est pour dire bonjour. Et moi, je fais, oh, Julien, c'était Julien Sauret. Julien, j'ai plus de travail, en gros, donne-moi du travail, enfin, parce que moi, je voulais animer, tu vois, j'étais à fond, j'étais sorti d'études, tout ça, enfin, voilà, puis j'étais arrivé à Gaff, c'est cool, quoi. Il fait, ok, bah, viens, on va te donner un truc. Donc, je le suis dans son bureau et il me montre, en fait, du coup, le plan qu'il voulait me montrer. Pour que je le fasse, tu vois. Je fais ok, c'est, en fait c'était Max qui.
C'était un plan main alors
c'était, ouais, c'était un plan main. Il voulait me tester sur un plan main en fait. Je fais cool, c'était un petit plan vraiment. C'est Max qui aboie, faire la porte qui se ferme parce que t'as Kitty qui s'en va. C'est, il fait blablabla, puis c'est tout quoi. Enfin, il y a juste une marche en fait. Et je pense que oui, c'était un plan pour me tester sur la body mecha, tu vois, du chien. Bon, alors, je l'ai fait dans les temps, tout ça, il était content, ça a bien marché, et RAL aussi, pareil, il a été validé, ok, cool. Et au final, il m'a refilé un autre plan, et en fait, c'est marrant parce que, donc, je suis pareil dans son bureau, il me montre, il me fait, bah tiens, on va tester sur un plan plus costaud pour voir ce que tu sais faire. Et,
du coup, t'avais plus de plan crowd ? On t'assignait plus de plan crowd, Florent
et... Bah, à ce moment-là, en fait, ils m'ont fait tester plein de trucs, d'abord les peaux, ensuite la crowd, ensuite le mail pour voir, en fait.
Ah oui.
Et alors, et du coup.
Mais t'avais toujours Florent comme lead.
Alors j'ai eu Florent comme lead pour le petit plan là de Max, et ensuite on m'a basculé sur un autre lead. Ah, mais j'étais toujours dans la crotte, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Et du coup Julien il me montre le plan, et en fait c'est marrant parce que il me montre le layout, tu sais, et t'as, en fait c'était Gidget qui montait sur des
les étagères.
Les étagères. Ouais. Et tu sais, dans le layout, enfin maintenant ça a changé, mais en gros, t'as les tiroirs qui s'ouvraient quand elles montaient, tout ça, enfin machin. Et il me montrait ça, et moi je me dis, tu sais ce que je me dis, c'est con, hein, mais je me dis, ah, il veut que j'anime les tiroirs qui s'ouvrent et tout. Ok, bon, moi j'étais contente, je me dis, ouais, je veux passer devant derrière un main, tu vois, et du coup, il va falloir que j'anime, pourquoi pas, tu vois, enfin, moi j'étais à fond en tout, enfin, j'étais, ah, ouais, donnez-moi des trucs à animer, enfin, je suis contente d'être là et tout, enfin, j'étais à fond, quoi. Et en fait.
T'adorais la 3D en fait.
Bah en fait maintenant ouais, j'ai tellement basculé sur la 3D, enfin c'est. Ouais, c'est devenu. Bah après du coup je suis dans l'anime, donc oui, mais c'est marrant, ouais, c'est vrai. Et du coup, il me dit après, ouais, bon bah tu peux ouvrir la scène avec le rig pour le tester, tu sais, de Gidget là, enfin le chien. Et je comprenais pas, mais j'étais là dans ma tête, mais pourquoi il veut que j'ouvre la scènerie s'il veut que j'anime des tiroirs, tu vois, enfin. Ah bref, après j'ai compris que oui, j'allais animer ce plan-là. Mais en fait, j'y croyais tellement pas parce que le plan. Non, mais j'étais stagiaire. Hein. Le plan, il est gigantesque pour un stagiaire.
Ouais, c'est un gros plan. Ouais.
C'est genre, tu sais, je me souviens, genre elle rentre, elle disparaît, tout ça. Fin... Et moi, j'avais jamais animé ce genre de plan, tu sais, où il fallait jouer un peu, tu sais, il fallait être un peu malin, tu vois, parce qu'elle disparaît, il fallait la faire disparaître. Je me dis, mais comment je vais faire ça?
Des trucs qui sont même pas possibles en plus.
Bah oui.
Dans la réalité.
Et moi j'étais là, mais comment je vais faire ça quoi, pour moi c'était pourquoi, enfin pour moi c'était pas possible qu'il passe ce genre de plan à un stagiaire, parce que mais en fait j'étais en plein test, j'en étais pas confiante, mais j'étais en plein test.
Et alors comment t'as géré le
au début j'ai un peu galéré, mais après j'ai eu de la chance parce que j'avais mon prof d'anime qui travaillait à Gaff, il me donnait des conseils et tout pour m'aider, parce que moi en fait je lui envoyais mes plans, lui aussi m'envoyait ses plans. Alors je sais pas ce qu'il voulait, il voulait que je lui dise ce que j'en pense, mais moi je pense que ses plans étaient toujours super. Enfin, j'ai toujours pensé que ses plans étaient magnifiques, alors je lui dis, ah si, c'est cool, enfin, tu vois, on s'est changé. C'est Jérôme Charteau. Et du coup, on s'est changé nos plans, alors moi je lui ai expliqué, alors il me donnait des conseils et tout, il est passé même me voir pour m'expliquer des trucs et tout, enfin c'est cool. Et au final, donc j'ai bloqué, genre une pause, tu vois, genre 4 pauses et tout, vite fait, sur un gros ref. J'ai montré, ouais, ça marche bien, machin, allez, tu peux bloquer plus, ça, bah, ça remarche, allez, spline, et ainsi de suite. Et au final, j'ai sorti le plan, je crois, deux jours avant que ça tombe le quota. Ouais, et même mon lead de l'époque, c'était Jean, et Metz. Il était là, il rigolait, il fait, ah, oh, putain, un stagiaire. Enfin, pour lui, il l'avait jamais vu, quoi. Donc, ouais. Mais c'était marrant, enfin.
Ouais, t'as fait une forte impression, quoi, sur ce point.
Bah ouais, du coup, mais enfin, j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit, mais je vais jamais arriver au début. Je me suis dit, ah putain, mais c'est impossible, comment je vais faire ça? Mais j'étais tellement à fond, en fait, je voulais vraiment montrer que... Enfin, en fait, j'étais tellement contente d'être à IEF parce que c'était, ça faisait partie d'un de mes objectifs. Mmh. Tu vois, quand je suis sortie d'école, j'avais un objectif, c'était IEF, Pixar Disney, je voulais même aller à Weta. Mmh. Et je disais, ah, je suis à IEF, putain, mais c'est trop bien. En plus, j'avais l'impression que c'était super rare. Parce qu'en fait, les stagiaires qui sont à IEF, en général, c'est des gens de Gobelins, tu vois. Donc, moi, je venais d'une école du fin fond de la campagne, enfin, à Amiens, enfin... C'est pas le fin fond de la campagne, mais c'est une école pas très connue. Je me suis dit, tu vois.
Ouais, t'es monté vite au final.
Ouais, ouais, ouais.
Et je connais pas, enfin, je sais pas s'il y a d'autres stagiaires qui ont pu passer directement.
Si. Alors.
T'étais la première.
J'étais la première, ouais, parce que apparemment, ça se faisait pas trop de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, prendre des stagiaires comme ça, puis leur faire tester du mail. C'est Julien Sourin, en fait, qui a testé ça, puis peut-être il s'est dit que ça marchait, et il y a une autre stagiaire qui est venue, Agathe. Bulik qui est venu ensuite juste après moi, quelques mois après moi en fait, pareil en stage sur PET, et du coup elle était dans mon équipe et pareil elle a fait de la, je crois qu'elle a fait de la crowd et ensuite elle est passée en main etc, et pareil elle a été prise en main.
Non, c'est cool. Et du coup après t'es passé officiellement en main.
Alors au bout de 3 mois, ouais. Parce que moi du coup j'ai demandé 6 mois de stage, parce qu'en fait à l'époque dans mon école il n'y avait pas de restriction de temps de stage. Parce que je sais qu'au Gobelin par exemple il y a une restriction du genre tu peux pas faire plus de 6 mois ou pas plus de 3 mois, enfin je sais pas, un truc comme ça. Moi j'avais demandé 6 pour être sûr, tu vois, genre de faire mes preuves et de dire oui je veux 6 mois de stage machin, tu vois. Et mon prof même à l'époque il m'avait dit c'est une connerie, j'aurais dû prendre 3 mois parce qu'au bout de 3 mois ils savent s'ils prennent ou pas. Moi je savais pas.
Ouais, tu savais pas.
Et au bout de 3 mois Julien il me dit bon écoute t'as sorti tes plans dans les temps, t'as fait du bon travail, on est content, bon on peut te prendre en salarié, c'est bon, mais on sait pas si on te prend encore en main ou en crowd.
Ouais
il m'avait dit ça. Et moi, dans ma tête, déjà, j'étais trop contente. Je me suis dit, prenez-moi, que ce soit en crowd, en main, je m'en fiche, tu vois. Même, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis même dit, oh, ça va faire bizarre de repasser en crowd, tu vois. Parce que pour moi, c'était pas possible qu'ils me prennent en main, puisque, moi, je venais d'arriver, je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, tu vois. T'arrives, tu sors d'études, voilà. Quand j'arrive, je suis arrivée à Gueux, je parlais à tout le monde. Je faisais chier les gens, j'allais devant, bonjour, comment ça va? Je m'appelle, ça se fait pas trop normalement, tu vois. Je veux dire, à gueuf, tu vois, c'est pas un truc qui se fait naturellement, tu vois.
Ouais.
Surtout quand t'arrives, que t'es nouveau.
C'est plus une question de personne et de personnalité que de gueuf, quoi. T'es allé vers les gens et c'est ce qu'il faut faire, c'est cool.
Ouais. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai rencontré des gens qui étaient cool et on a bien parlé, tu vois.
Et après, la fin de la prod, ça s'est bien passé, du coup, t'as fini.
Franchement, PETS, c'était cool. Moi, j'en garde un bon souvenir de PETS. C'était ma première prod, j'étais contente. J'ai eu un super lead, enfin, j'ai eu des super leads, j'ai eu Florent et Jean. Jean, c'était un super lead. Très, très à la cool. Et pareil, les gens de mon équipe étaient cool. Enfin, franchement, non, c'était cool.
Et t'as fait une autre prod à Gueuf?
Ouais, j'ai fait Moi, Moche et Méchant 3. Le troisième.
Ouais,
c'était le troisième. Donc, oui, parce qu'à la fin, du coup, d'une prod, la prod vient te voir et te dit, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce qu'au déjà, ils te disent s'ils te gardent ou pas. Bon, bah, moi, ils me gardaient. Et le projet, c'était donc soit Moi, Moche et Méchant, soit, je crois que c'était Grinch, il me semble, à l'époque.
C'est pas Sing? Ah non, ouais, t'as...
Non, Sing 2, je me souviens.
Sing 1.
Sing 1 était en production. Ils m'ont même demandé à un moment donné si... Parce qu'ils avaient besoin de renfort.
Ouais.
Et ils étaient venus un peu voir tous les animateurs pour demander s'ils voulaient pas aider et tout. Donc oui, la prod était en production. Mais il me semblait qu'il y avait Grinch qui sortait en pré-prod, un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, tu pouvais choisir.
Ouais, tu pouvais choisir, mais en fait, il semblait... reculé par
la
suite.
Mais il me semblait, oui, mais Sing continuait, je me souviens. Et tu pouvais choisir, et moi, je m'en fichais, je pense, à l'époque, parce que j'étais contente de rester... Je me suis dit, moi, Moche et Méchant, pourquoi pas, c'est cool d'animer sur la licence, tu vois. J'avais jamais animé, tu vois. Donc. Et voilà, et puis...
Ça s'est bien passé aussi, alors,
d'ailleurs j'ai beaucoup aimé PET.
T'as moins aimé...
disons qu'il s'est passé... la prod était rude sur Moi, Moche et Méchant. Elle était très rude. En tout cas, moi, elle était un peu difficile pour moi. un peu fatigante. Mais au final, c'est cool parce que, tu vois, c'est encore en fait une expérience en plus.
Ouais.
Et de toute façon, t'apprends toujours des trucs quand t'en animes, quelle que soit la prod. Mmh. Même si parfois elle peut être un peu plus dure que d'autres. Voilà, il y a des moments. De toute façon, il y a des moments où tu vas prendre des expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes en fait.
Ouais.
Et même une mauvaise expérience, je trouve que c'est d'ailleurs.
T'apprends plus que.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'au moins, tu tires une leçon des erreurs que t'as pu faire ou des erreurs. Tu vois, de la prod, tu te dis, ah ouais, bon bah là, c'est comme ça, enfin, tu t'apprends en fait ouais. le fonctionnement, le système, tu vois.
En fait, il y a même cette idée que tu avances que parce qu'il y a une résistance, en fait,
ouais.
Sinon tu restes sur place.
C'est ça.
Donc, si ça se passe bien, en fait, tu peux stagner.
Exactement.
Et puis dès qu'il t'arrive des coups durs, en fait, t'es obligé du coup de les surpasser, et du coup, t'avances et tu progresses.
Ouais, c'est ça.
Donc, DM3, ça a provoqué ton envie de partir.
Ouais, alors, en fait, j'avais entendu parler d'un projet qui se faisait, on avait tous un peu écho dans la boîte. Et en fait, il y a un projet qui commençait dans une boîte à Paris.
Ouais.
Et c'est un pote à moi dans la team dans laquelle j'étais, dans Moi Moche et Méchant, qui m'avait dit « Ouais, là, je passe un entretien pour voir. » Il m'en avait parlé de ce projet-là. Et je fais, ah tiens, ça m'intéresserait bien de le faire, quoi. Enfin, en plus, c'est marrant parce que je connaissais le directeur d'animation qui était sur ce projet-là, à Fortiche.
Ouais.
Et parce qu'en fait, alors, je sais plus quand, mais il y avait Astérix à un moment donné qui devait se faire le deuxième.
Ouais.
Mais il a été repoussé pendant très longtemps. Et avant qu'il soit repoussé, moi, j'avais déjà fait un entretien, en fait. Pour Astérix, et j'avais vu le directeur d'animation de l'époque, Bart Monnery. On avait discuté, lui il était content et tout ça. Enfin, je lui avais montré ma démo, il était chaud, tout ça. Il a fait ouais, bah écoute, si t'es intéressé, nous on prend machin, c'est cool, tu vois. Sauf que le projet était tellement repoussé que bah lui il est parti sur un. En fait, on lui a proposé un autre projet, il y a été, et puis du coup là il est resté. Du coup, il est directeur d'animation sur ce projet là. Et du coup, je me suis dit, ah, comme je le connais, enfin, on a déjà discuté, je me dis, bah allez, je vais tenter, tu vois. Franchement, je te le dis, hein, si ça avait pas été lui, en directeur d'animation, j'aurais pas fait.
Ouais.
J'aurais eu un peu peur, ou j'aurais pas osé, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je tente, tu vois. Donc, je vais envoyer un mail, et ça faisait un an jour pour jour que j'avais fait, justement, cette entrevue pour Astérix, le deuxième, tu vois. Donc, pareil, donc il s'est souvenu de moi, il a fait, oui, bah ouais, viens, passe, tout ça, on parle du projet, si tu veux, machin. Je suis passée et ça m'a tout de suite plu. J'étais emballée de ouf.
Ouais.
Et je me suis dit, non, mais c'est ça, il faut que j'y aille, quoi. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'y vais.
Et alors, ça s'est passé comment, la prod d'Astérix?
Alors, donc je suis partie, j'ai fait 7 mois à Fortiche,
ouais. Comme ça.
Et ensuite, je suis partie sur, justement, Astérix, ouais. Le deuxième, parce que moi, c'est un projet que je voulais faire. Les directeurs d'animation, c'était mon ancien prof d'anime, donc Jérôme, ouais. Et il y avait Colline,
qui venait de MacGuff aussi.
Exactement, très très bonne animatrice, et d'ailleurs j'étais très contente de travailler avec elle. Et ben écoute, c'était rude.
Ouais.
C'était rude pour moi. Alors le film il est super cool, je suis très contente d'avoir bossé dessus, vraiment. Mais la prod pour moi, c'était un petit peu galère parce que. Ah, j'étais fatiguée, puis j'avais des trucs, tu vois, dans le travail, il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire, c'était assez compliqué pour moi
des
parce que...
Hein ? Des trucs d'anime ?
Bah ouais, par exemple, pour l'anime, le style est tellement différent, c'est
cartoon,
vraiment...
Ouais,
c'est très très cartoon, beaucoup plus cartoon que tu vois,
MacGuff. MacGuff,
ouais. Et voilà, c'était vraiment bah, un peu comme dans l'optique du premier, en fait, tu vois. L'optique du premier, mais c'était plus poussé. Tu vois, il y avait... Ça se dirigeait un peu comme vers Sing, tu vois. Une anime très cartoon, mais très organique.
Ouais.
Voilà. Et moi, j'avais pas vraiment fait ça. Enfin, tu vois, j'étais pas...
Comment tu concilies les deux, en fait?
De quoi?
Bah, cartoon et organique. Pour moi, ça se rapproche de l'organique, ça va se rapprocher plus du réalisme.
Ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est un style Pixar, en fait.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
okay.
Alors, après Astérix, c'est assez différent parce que tu sais, le premier c'était très pose-to-pose.
Ouais.
C'est-à-dire que
ouais.
Tu avais une pose très forte.
Et tu la maintenais.
Et exactement, tu maintenais la pose et ensuite.
Mais t'es pas loin du Kailou.
Du quoi?
Du Kailou.
Ouais, du Kailou. Exactement.
Non, t'es
pas d'accord. Si.
C'est le fait que je dise du Kylo.
Ouais, ça m'a fait bizarre. Mais du coup, c'est très pose sous pose.
Ouais.
Donc, pose très forte, maintenue, puis tu sais, un peu marrante, et qui s'apparente aussi à la BD, tu vois, parce qu'il fallait un peu. Tu vois, il fallait fitter un peu la BD. Mais par contre, dans le 2, il y avait ça, mais ça tirait plus. C'était plus organique, tu vois. En fait, les directeurs d'animation voulaient quelque chose de plus organique, un peu comme Sing, finalement, tu vois. Mmh. Donc, tous les deux bossaient sur Sing et ils voulaient un petit peu réavoir ça, justement, réinjecter ça dans le dernier Astérix.
Surtout que c'était Patrick Delage qui était le directeur du premier Astérix, qui après a fait Sing.
Ouais.
Donc, il y a ce...
Oui, voilà. Mais enfin, après, c'est cool parce que moi, oh là là, j'ai appris tellement de choses grâce à Colin et Jérôme qui, lui, m'a rappelé les bases de l'animation. Ouais. Il en faut toujours. Mais
donc la prod a été un peu éprouvante.
La prod a été un peu éprouvante pour moi parce que, ouais, le style d'anime, c'est vrai que j'étais pas habituée. J'avais un peu de mal de sortir des points quand même.
Mm-hmm.
Mais au final, voilà, ça s'est passé. Je l'ai fait presque en entier. C'est marrant parce que, en fait, je me rends compte que j'ai jamais fini une prod.
Ah bon, t'es parti avant?
Alors si, c'est Pets. J'ai fini Pets.
Bah oui.
Mais genre, pour DN3, j'ai terminé 2 mois avant la fin ou 1 mois avant la fin. Astérix, pareil, 1 mois avant la fin. Afortiche, pareil. Avant d'aller sur Astérix, je suis partie 1 mois avant la fin. Enfin, un truc comme ça. Enfin bref.
Et du coup, après Astérix, en fait, t'es allé à Afortiche après Astérix.
Après Astérix, je suis retournée à Afortiche.
Et donc, c'est-à-dire... est-ce qu'à chaque fois, ce qui te motive, c'est parce que du coup, t'as une prod qui va être plus intense ou un peu plus compliquée et ça te pousse à changer de studio, à tester autre chose?
Alors en fait...
C'est juste l'envie de changer de projet, d'ambiance, de...
Non, c'est... En fait, moi, j'accorde énormément d'importance au projet maintenant.
Ouais.
Il me faut un projet avec, tu vois, avec une histoire qui tient la route, avec un truc un peu, tu vois... vraiment fort, tu vois, au scénar, tout ça. Enfin, ouais. Maintenant, c'est ça qui va me motiver, en fait. À vouloir me donner pour que l'histoire elle s'élève à l'avance et que ça fasse à la fin un truc vraiment méga cool, tu vois. Ça a été le cas pour Astérix, tu vois, l'histoire était cool, elle était bien écrite, c'était drôle et c'était émouvant à la fois. Donc bon, moi j'ai pas eu, enfin c'est pas très bien passé pour moi parce que voilà, j'ai eu des petits problèmes surtout, enfin après avec le travail j'ai eu un peu de mal à, tu vois, à faire certains trucs, mais au final je suis contente d'avoir bossé dessus parce que le projet était cool, vraiment.
Mais ce qu'on disait tout à l'heure, du coup t'as appris aussi plus peut-être.
Oui, ouais.
Enfin, ça.
Oui. Mmh. Ouais. Mais après bon.
Et alors Fortiche?
Enfin Fortiche, je suis très contente d'être là.
Ouais.
Je pense
que tout
le monde est très content d'être à Fortiche. Je pense que je vais y rester pendant un peu longtemps quand même.
Ouais.
Je dis ça mais j'en sais rien, mais je sens que je suis bien là-bas.
T'es bien là-bas, ouais.
Ouais.
Et le projet, qu'est-ce qui t'a plu? Ah oui, là, on peut pas trop parler du projet, en fait, c'est ça.
C'est d'avé.
Mais tu peux nous parler peut-être un peu plus de la différence avec les autres studios. Qu'est-ce qui fait que la Fortiche t'es...
Ce que je peux te dire, c'est par rapport à la prod, ouais. Fortiche, en fait, ce qui est cool, c'est que l'ambiance, en fait, c'est très, très familial.
Mm.
Tu vois, il y a une ambiance où tout le monde se parle, c'est-à-dire que... c'est pas que les animateurs entre animateurs. C'est vraiment, tu peux parler avec des gens
entre départements.
Ouais, exactement. C'est vraiment cool. Tu vois, il y avait ça dans, tu vois, en fait, là, ils ont déménagé. Maintenant, Fortiche, ils sont plus dans le 18e. Avant, ils étaient dans le 18e. Mais on était tous dans un énorme open space, tu vois. Ouais. Il y avait les rigueurs à côté, il y avait les gens du layout. Et tu vois, les gens passaient, ils disaient bonjour, tu vois. Et même encore maintenant, tu vois, ça nous arrive, tu vois, on parle avec des gens du rig, des gens du camab, des gens du bord, tu vois, enfin c'est vraiment tout mélangé. Il y a, tu vois, des fois on fait des petites soirées pour tu vois, le jeudi soir parfois, puis du coup tout le monde est mélangé, on parle un peu, enfin c'est cool, tu vois, et le projet sur lequel aussi il est cool, donc enfin voilà, en fait l'ambiance c'est très humain, en fait, même dans l'animation, en fait, tu vois. Ce qui est cool à Fortiche, c'est que même si tu vas en tant que junior dans cette boîte, bah t'auras la possibilité, en fait, de faire des plans middle ou voire même senior. Peut-être pas senior, mais tu vois, t'auras la possibilité de faire des gros plans quand même.
Ouais.
Tu vois. Alors à Guff, je dis pas que c'est pas le cas, mais en fait à Guff, c'est surtout que tu peux avoir la possibilité, comme moi je l'ai eu, tu vois, ça c'est cool. Mais passer à un plan senior, enfin un plan middle à un junior, ça arrive moins quand même.
C'est vrai.
Ouais. Et du coup, tu risques d'avancer un peu moins à GEF, ouais, tu ouais. vois. Tu t'avances quand même, mais disons qu'à Fortiche, tu peux avoir plus de chances de montrer que.
Bah, ce que tu sais faire.
Ouais, et puis tu peux aussi t'éclater sur des plans vraiment un peu cool, tu vois. Enfin, ouais. que des takes ou ce genre de trucs. Tout le monde a sa chance finalement. Okay. Tu vois. Et ça, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton nouveau business là?
Mon business, ouais.
Non, mais ton.
Je sais pas si on peut parler ça d'un business. Mais...
Bah, tu voudrais en. Ton but, ça serait d'un. Là, on parle de la peinture. Hein,
ouais, ouais.
Tu fais de la peinture à l'huile. Mais est-ce que tu aimerais en vivre?
Idéalement, pourquoi pas.
Ouais.
Mais j'y réfléchis. Après, je sais pas. Je pense que si je devais en vivre, ce serait juste pour un temps en fait.
D'accord.
Tu vois, ce serait pas toute ma vie. Sauf si tu es à la retraite, tu vois, mais. Je réfléchis encore, mais c'est vrai que ça me plairait énormément de faire plus de peinture que d'animation.
Ouais, il faudrait que ça soit ton...
Mon main...
Ouais, ton main.
Mon activité main, on va dire.
Et alors, comment ça t'est venu, ça?
Alors, honnêtement, je sais pas trop. En fait, je crois que... Je crois que j'avais découvert des artistes sur Instagram, mmh. mais moi j'étais sur ordinateur en fait. Je passais mon temps sur ordi parce que bah, moi je travaille sur ordi donc. En fait, les comptes Instagram, je les regardais sur ordinateur. Et il y avait des artistes que je voyais, je me dis putain, ça, c'est trop cool et tout. Et donc du coup, je me dis mais je vais me faire un truc Instagram pour pouvoir suivre ces artistes-là.
Ouais.
Parce que je peux pas les suivre sur ordinateur, enfin c'est chiant. Mmh. Quoi. Et donc, sur mon téléphone, j'ai installé l'appli, et puis j'ai commencé à suivre. C'est là que j'ai découvert l'appli, au final, parce que
oui.
Instagram, enfin, c'est depuis je sais pas combien de temps, mais moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps, finalement. Bah, l'année dernière. Et en fait, le fait de voir quotidiennement, parce que, tu vois, c'est un réseau social, donc quotidiennement, tu vois, t'y vas, tout ça. À moi, Instagram, j'ai que des artistes dedans.
Ouais.
Il y a des musicien là, enfin voilà, mais
Nicki Minaj,
voilà, Nicki Minaj, entre autres. Mais sinon, il y a beaucoup de peintres, ouais. Il y a que des peintres en fait, des gens qui font du dessin. Et le fait de quotidiennement en fait d'avoir en fait cette quantité de données artistiques, bah moi ça m'a donné, en fait, je sais pas, c'est comme si ça avait fait ressurgir en moi ce côté un peu dessin que j'avais, qu'au final j'ai totalement enterré.
Tu dessinais plus?
Je dessinais absolument plus.
Ah ouais.
En fait, j'ai énormément dessiné bah, au lycée, bah forcément je faisais que ça. Donc,
mais la 3D, ça t'a fait arrêter le dessin?
Ça m'a totalement fait arrêter le dessin. Ouais.
Pareil.
Et c'est fou, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Je pense que... En fait, moi, c'est dès que j'ai arrêté de travailler, enfin dès que j'ai commencé à travailler, pardon,
ouais.
Je travaillais l'animation, et au final, j'avais plus de temps pour dessiner. Ouais. Puis même, j'en avais pas spécialement.
En vrai, on a du temps, c'est juste qu'on.
J'en avais pas envie, moi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton esprit est tellement pris par la 3D.
C'est ça.
Que t'es même plus, en fait, ouvert à l'idée de reprendre un crayon et à poser sur le papier, quoi.
C'est ça.
C'est triste.
Bah, ouais, surtout que moi, le dessin pour moi, c'était ma vie, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'était vraiment, je voulais faire ça, et puis je
c'était le moteur premier de toute ta carrière.
Bah c'est vrai. Ça, moi, sans le dessin, je sais pas ce que je serais devenue. Enfin, pour moi, je fais qu'un avec le dessin depuis toujours, en fait. Et
du coup, Instagram t'a redonné ce...
Bah en fait, ouais, je voyais des artistes, donc, alors beaucoup de peintres qui font de la peinture à l'huile.
Ouais.
Et je me suis dit, ah c'est cool ça et tout, machin. Et en fait, c'est vrai que la peinture à l'huile, c'est un truc que je voulais essayer depuis pas mal de temps, parce que moi, en fait, j'étais beaucoup sur l'aquarelle. Je faisais énormément d'aquarelle. J'avais même réussi à... En fait, mon but, c'était de faire le truc le plus réaliste possible. En fait, j'étais dans l'hyper-réalisme. C'était un but en soi, en fait. C'est... En fait, je pense que les gens qui font de l'hyper-réalisme, c'est vraiment... C'est comme une genre de quête personnelle, en fait. Mm-hmm. Tu vois. C'est pas juste... C'est oui, tu as envie de ressembler plus à la photo, mais en même temps, tu vois, c'est une façon de contrôler, en fait, tout ce qu'il y a dans ton dessin. Tu vois. Parce que, tu sais, t'as la photo pour ça. Tu sais, les gens disent, ouais, pourquoi pas faire une photo, tu vois.
Oui.
Mais en fait, dans le fait de représenter une photo, finalement, ou un truc qui ressemble très fort à une photo, c'est aussi, tu contrôles, en fait, chaque élément de ton dessin, en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est que...
Tu comprends tout.
C'est ça, hein, c'est comme... c'est une sorte de quête, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, en fait, en tout cas, je le vivais comme une sorte de quête personnelle où... Et c'est, en fait, c'est tout un processus. C'est ça qui est... En fait, dans ton cerveau, il se passe tout plein de trucs. Quand tu fais une peinture, tu vois, et puis t'as ta référence, t'es là, t'essaies de coller le plus possible. Et il y a tout un truc qui se passe, et moi, vraiment, je pense que c'est un peu comme de la méditation, tu vois. Moi, j'étais bien, en fait, quand je peignais, je me souviens des peintures que je faisais à l'aquarelle. J'en avais des très abouties à l'époque. D'ailleurs, c'était jamais eu atteint un aussi haut niveau, en tout cas pour moi.
Tu dis à l'époque, c'était genre...
À l'époque, c'était... ouais, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, ouais. Pour moi, j'avais atteint un niveau qui m'était... j'étais contente.
Ouais.
Parce que tu sais, en général, oui, quand tu dessines, ouais, t'es là, tu t'es pas satisfait, machin. Et il y a sur un ou deux dessins que j'avais fait, j'étais là, j'étais contente quand même. Mmh. Je me suis dit, ah putain, ouais, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, tu vois. Et après, bon bah, j'ai arrêté ça parce que voilà, l'animation, tout ça.
Mais ce que tu dis sur le process, le dessin réaliste ou la peinture réaliste, est-ce que du coup, tu dirais que ce qui est vraiment plus important pour toi, c'est le process plus que le résultat final ?
En fait.
Parce que le reproche des gens sur le dessin réaliste, c'est juste parce que c'est trop réaliste, enfin. Autant prendre la photo.
Exactement.
Mais du coup, l'intérêt, c'est justement de créer la photo. Donc, c'est plus dans le fait que l'image a été créée de toutes pièces, élément par élément, comme tu dis.
C'est ça.
Plutôt le fait que juste a été pris en photo.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout. Comment ? C'est une performance, en fait.
Ouais.
Pour moi, c'est une performance. C'est-à-dire qu'il y a un artiste comme ça, d'ailleurs, sur Instagram, qui s'appelle. J'ai oublié son nom, c'est un coréen. J'arrive pas à dire son nom. Je sais plus.
Tu me le donnes, on le met dans la description.
Ouais, ouais.
Pour ceux qui veulent aller voir.
Et c'est quelqu'un. Alors, c'est un peintre qui fait de l'hyper-réalisme. Et en fait, il fait des trucs hyper complexes, comme par exemple des lézards sur des cuillères ou. Non, ouais. des grenouilles sur un glaçon ou des poissons dans un verre. Ça, il a fait beaucoup. Un poisson rouge dans un verre. Alors, t'imagines la complexité du truc.
Mais il perd une photo ? C'est-à-dire qu'il va mettre en scène le truc, prendre une photo et la refaire.
Moi, je pense qu'il part d'une photo, hein, parce que, à mon avis, il y a très peu de gens dans ce monde. Peut faire ça de tête.
Mais peut-être qu'il peut.
Ça existe. Il y en a qui... ça existe des personnes comme ça, mais c'est très rare.
Mm-hmm.
Mais même les peintres les plus réalistes possible ont une référence quand même. Et lui, en fait, il fait souvent la même chose.
Mm-hmm.
Et t'imagines, donc, le poisson avec les écailles, le reflet, le verre de l'eau dans un verre. Enfin, mm-hmm. tout un tas de trucs. Et en fait, ce qui est incroyable et ce que tu peux remarquer dans les peintures ultra réalistes, c'est que c'est toujours des trucs hyper complexes. Tu vois, par exemple, t'as forcément déjà vu une peinture d'une femme avec, par exemple, de la peinture qui coule, tu vois, au-dessus de sa tête et ça coule comme ça.
Oui, oui.
Ou même des peintures hyper réalistes de personnes dans l'eau, par exemple.
Ouais. Oui.
Tout ça, c'est de vouloir contrôler, en fait.
C'est la performance, quoi.
Exactement, et c'est aussi le fait de vouloir contrôler, en fait, les choses aussi complexes que ça, tu vois. L'eau, le reflet, tout ça, c'est des choses très complexes à dessiner au final, dans l'hyperréaliste, tu vois.
Donc t'es à la recherche de la complexité pour te challenger. Si c'est trop simple,
je pense qu'il y a ça, ouais, tu vois. Parce qu'au final, oui, tu pourrais faire, je sais pas, une nature morte avec une tasse et puis un gobelet en inox.
Ça se faisait au début.
Bon, voilà, il y a un petit peu de reflet, ah, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais le fait de choisir des sujets aussi complexes, je pense que du coup, ça monte le niveau, en fait, de la performance, oui. Et moi, je pense que c'est vraiment, vraiment une quête personnelle. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense que l'hyperréalisme, c'est une quête personnelle. Parce que quand tu commences un dessin et que tu veux vraiment, tu vois, vraiment coller à la réalité, il se passe tout un process dans ton cerveau. Et un peu comme de la méditation, quoi.
Est-ce que tu penses que par le dessin réaliste, donc là je parle de dessin plus que de peinture, est-ce que tu penses que par le dessin réaliste on peut apprendre à dessiner?
Oh oui, clairement. Ah non, mais alors moi je te le dis tout de suite, quand moi j'ai appris à dessiner, j'ai pas eu de cours, en fait, au lycée, on nous disait pas comment dessiner, quoi. Et moi, ce que j'ai toujours fait, c'est la représentation, d'images que je trouvais que j'aimais bien, ou enfin n'importe quoi. J'aime bien cette image, je vais la refaire.
Mmh.
Et je le faisais. Je me souviens d'un truc que j'ai fait en hyperréaliste, c'était le portrait d'Elvis Presley pour mon père, qui est fan. Et je me dis, tiens, je vais lui faire un portrait pour son anniversaire, par exemple. Et c'est là que j'avais commencé à dessiner, tu vois, je voulais vraiment fitter à la photo, qui était en noir et blanc, donc c'était plutôt simple d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de couleur. Et plus j'en faisais de ce genre de dessin, bah plus je voyais mes erreurs, plus ça s'affinait, en fait, tu vois. Parce que ton œil s'affine au final. Parce que du coup, tu compares
ça
à la réalité.
Ça pardonne pas, en fait, l'hyperréalisme ou le réalisme. En fait, j'allais dire que ça pardonne pas, parce que t'as tout de suite la comparaison avec ce que tu dis ici.
Ouais.
Mais c'est quoi la différence entre le réalisme et l'hyperréalisme?
Bah, franchement, je pourrais pas donner la définition exacte, mais je suis...
Parce que l'hyperréalisme, c'est justement pas ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de performance, d'aller encore plus loin que juste le réalisme, de, par exemple, d'une nature morte.
Ouais. Bah, l'hyperréalisme, c'est vraiment le, c'est une photo. Tu regardes, tu peux dire que c'est une photo. Tu peux te tromper. Tu peux, quand tu regardes... Ouais, voilà. Tu peux pas savoir.
Tu peux ne pas
savoir. Tu ne peux pas te dire... Enfin, tu peux pas expliquer la différence entre si c'est une photo ou si c'est une peinture. C'est ça, l'hyperréalisme, je pense. C'est le fait de ne pas savoir. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est une peinture?
Est-ce qu'un effet spécial que tu ne peux pas voir, c'est de l'hyperréalisme?
Moi, je pense si l'effet spécial est très, très bien fait.
Genre Jurassic Park, c'est de l'hyperréalisme, ok.
Bah, franchement, le film, moi, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Hein.
Non, mais c'est drôle parce que cette idée dans les effets spéciaux, c'est quand même un peu cette recherche-là.
Ah bah oui. Bah oui, parce qu'il faut un minimum de crédibilité au final.
Parce que le but de l'hyperréalisme, c'est de ne pas faire la différence avec la photo, donc c'est l'idée de... Je vais passer des heures et des heures à faire quelque chose d'artistique, mais qui ne va pas se voir. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Que tu ne vas pas pouvoir voir si c'est un tableau ou une photo. Et normalement, les bons effets spéciaux, c'est exactement ça, c'est que tu passes du temps à recréer quelque chose qui n'existe pas, mais dans l'idée que personne dans la salle ne va être attiré par ça, son attention ne va pas être attirée, parce qu'en fait, tu vas pas voir que c'est un effet spécial.
Bah
et
oui.
Quand tu vois que c'est un effet spécial, c'est que c'est un peu raté.
Bah, ça te sort du film, en fait. Ça te sort du film ou de la série, tu te dis, waouh, ça marche pas avec le décor, en fait, ou l'action qui se passe. Donc oui, eux, ils ont intérêt à être très, très, très... dans le réalisme, quoi.
Et alors, pour ceux qui ont vu le vlog sur Michael, alors je sais pas encore si le podcast il sortira avant ou après le vlog sur Michael Jackson, mais le tableau que tu réalises dans le vlog, comment t'as pris ce challenge un petit peu que je t'ai donné de partir d'une photo effectivement de Michael, mais de changer la tête des danseurs pour mettre James Brown, Chaplin, Diana Ross? Comment tu... Parce que du coup là, il y a vraiment une l'idée de créer quelque chose qui n'existe pas. Comment tu l'as pris ça artistiquement comme challenge?
Bah alors déjà, quand je faisais de l'aquarelle, j'étais dans l'optique du réalisme et réalisme. En peinture à l'huile, c'est différent. Je crois que j'ai... je suis plus dans une démarche maintenant d'interprétation par rapport à mon style, parce que moi, mon style n'est pas encore défini en fait en peinture à l'huile, puisque je commence finalement. Donc c'est en faisant beaucoup beaucoup de peinture que je vais voir en fait quel est mon style et qu'est-ce qui est mieux, tu vois, comment dire, ouais, plus je vais faire de peinture, plus je vais me dire, ah bah c'est ça que je sais faire, donc je vais le pousser, et ça va devenir mon style, en fait.
Ouais.
Pour l'instant, là, je teste des trucs,
ouais,
donc, et donc, du coup, là, pour la peinture de Michael Jackson, je vais pas du tout faire de réalisme, en fait, je vais vraiment interpréter, et en fait... Le fait d'avoir ces têtes-là qui ne sont pas du tout dans la photo de base, ben, c'est cool parce que du coup, c'est une occasion pour moi justement d'interpréter, tu vois, que j'ai jamais fait. Hein. Du coup, je vais pouvoir interpréter et voir ce que ça donne au final. Après, je peux toujours coller avec la lumière de la photo, tu vois.
Ouais.
C'est, il suffit d'avoir...
Une référence.
Exactement.
On a toujours la référence de la réalité.
On a toujours une référence. Franchement, c'est très rare d'avoir un artiste qui ne bosse pas sans référence.
Ouais. Oui, bien sûr.
Sauf le gars là qui fait les immeubles là en avion. T'as vu ou pas? À New York.
Les immeubles en avion?
Ouais, c'est un autiste, je crois. En fait, il a fait un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, je crois. Et puis après, il a...
Ah oui, de tête.
Le caméra tête.
Ah, oui, 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 c'est une chose. On mettra l'artiste dans la description, on se retrouve.
Bah voilà, lui, parce qu'il est autiste et tout, et c'est un cas très très particulier, mais en général, tous les artistes qui peignent ou quoi, ont une référence, ou alors, s'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ont déjà fait ce genre de dessin maintes et maintes fois, tu vois. En fait, ils reprennent ce qu'ils savent,
ouais.
Tu vois, déjà,
ouais.
Pour le réinjecter, en fait, dans leur illustration ou leur peinture.
Et à pas lui, tu dirais que c'est une référence pour toi?
Qui ça?
Ce mec là dont on n'a pas de nom,
le coréen?
Ouais.
Bah au début, alors la première fois que j'ai regardé Instagram, je l'ai vu, j'ai fait, ah, oh, c'est impressionnant, parce que moi c'était vraiment ce que je cherchais déjà de base.
Ouais.
À l'aquarelle, tu vois. Donc oui, après non, je dirais pas que c'est une référence.
Okay.
J'ai juste que en termes de performance, pour moi il est balèze, parce que après il y en a plein comme ça au final, mais moi je le connais, lui, parce que bon bah voilà, je l'ai vu, je m'intéresse à son travail et tout, mais c'est juste que son travail est... En fait, ses sujets sont très très complexes, tu vois. Il y a des reflets, il y a des écailles, enfin c'est vraiment tout un... C'est une complexité, quoi.
Mais ça, il t'inspire quoi. Mais c'est pas assez. Mais il va pas te. Il, tu vas pas retrouver de ce qu'il fait dans ton art.
Non, moi je non, moi je dirais pas que c'est une inspiration. Je dirais plus que je le suis parce que je...
Tu consommes plus que tu tu prends de lui.
Je consomme de l'art.
Bah ouais.
Non, en fait, je te dis comme j'étais dans cette démarche là, je le suis parce que voilà. Je suis toujours impressionnée en fait par l'hyperréalisme. Parce que ces gens-là ont. Ils ont... Quelque part, ils ont réussi un peu ce qu'ils voulaient. Après, je sais pas, moi je te dis vraiment mon point de vue, mais il faudrait vraiment interroger quelqu'un qui est dans l'hyperréalisme, qui fait des trucs hyperréalistes pour vraiment savoir le process, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout. Moi, quand je faisais ça, bon, c'était pas des trucs hyperréalistes que je faisais, tu vois, mais pour moi, j'essaie de faire le plus ressemblant à la réalité, tu vois, à la photo ou à la réalité, tu vois. Donc, moi, j'étais vraiment dans le. J'étais bien, en fait, quand je dessinais, tu vois. J'étais bien.
La méditation.
C'est vraiment comme une sorte de méditation. C'est vraiment. Tu vois pas le temps passer. Comme quand je dessinais quand j'étais petite à la table de ma cuisine en regardant les téléfilms, tu vois. En fait, cette. Quand je dessine, c'est cette sensation-là que je veux retrouver, en fait.
Okay.
Pour moi, le dessin, c'est ça. Et même la peinture, tu vois. C'est vraiment... Dessiner, c'est vraiment...
C'est ça qui te passe à travers la tête t'as un autre process quand tu fais un dessin?
Comment ça?
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dessines?
Franchement, je pourrais pas dire. Je pense tellement à plein de trucs. Enfin, c'est un peu de la rêverie. Ouais. En même temps, je suis concentrée sur ce que je fais, parce que faut pas déconner, tu vois. Mais et en même temps, mes pensées s'égarent, tu vois.
Ouais.
Comme, tu vois, tu rêvasses un peu, enfin, tu vois. Je m'imagine des trucs, ou
Est-ce que ton dessin peut évoluer en fonction de tes pensées qui divaguent?
Je suis toujours focus sur mon objectif, tu vois, genre je sais ce que je veux. Enfin non, c'est faux. Il y a des dessins des fois, je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc du coup, je faisais ça un peu comme ça, tu vois. Après je sais pas, pour moi, je peux pas vraiment savoir ce que quand je me mets à une peinture, en tout cas une peinture parce que j'ai commencé à bas longtemps. Je sais pas vraiment ce que ça va donner à la fin, j'ai un peu peur d'ailleurs à chaque fois, je me dis est-ce que ça va bien rendre et tout. Mais j'essaye d'avoir une vision globale avant quand même, tu vois, de me préparer, de me dire bon, j'aimerais que ça ressemble à ça, bon bah je vais faire ça et tout. De toute façon, il faut toujours, par exemple, quand tu fais une peinture, faut que tu visualises un peu, faut que tu vraiment, tu comme un dessin, tu sais, de nu, par exemple, de, tu vois, tu d'abord
modèle vivant.
Ouais, vivant, modèle vivant, il faut d'abord que tu observes, tu vois, toujours. Moi j'ai appris ça en école supérieure, mon prof m'avait dit tu observes d'abord, tu prends du temps, voilà, et ensuite tu te mets à dessiner. Pas se lancer comme ça, faut quand même un minimum de préparation. Tu vois.
Et tu dirais que tes références, du coup, alors moi j'aime bien demander aussi les références dans tous les domaines, parce que par exemple, toi t'as une thématique très particulière dans tes peintures, c'est cinéma américain des années 80.
Américain, c'est vrai, ouais.
Américain,
ouais, c'est vrai.
Bien sûr,
ouais.
T'as Robocop, Tortue Ninja, t'en as fait un troisième que j'ai dit. T'as fait que Robocop?
Ouais, j'ai fait Robocop, j'ai fait les Tortues Ninja.
Oui, et tu m'as dit que tes prochains c'était SOS Fantôme, Terminator,
Ghostbuster,
Alien.
Ouais, Ghostbuster, Terminator,
Alien,
j'aimerais bien faire Retour vers le futur quand même.
Ah, grave.
Ghostbuster et Retour vers le futur, je pense que.
Quelqu'un t'a commandé Retour vers le futur?
Non. Pour l'instant, t'es ma seule commande.
Ah ouais?
J'ai tellement pas le temps de. En fait, j'ai plus le temps de peindre déjà autre chose que.
Mais le truc, c'est que je vais te commander aussi les Tortues Ninja.
Tu vas me monopoliser avec
le planning. Du coup, c'est quoi tes inspirations du coup en termes de films, de musique et de littérature? Enfin, j'aime bien demander des inspirations qui sont autres que juste graphiques et du dessin.
Franchement, déjà en inspiration musique, absolument aucun rapport avec les films des années 80. Alors, ce que je peux te dire, par exemple, c'est que je suis hyper connectée avec la musique que j'écoute.
Ouais.
Tu
écoutes quand tu dessines? Quand tu peins?
Quand je peins, il m'arrive d'écouter de la musique. Bah, mais parfois, non, j'en écoute pas et j'aime bien, tu vois, laisser mes pensées, quoi. Mais j'aime bien avoir un bruit, quand même. Alors, ce que je fais, je sais pas si les gens le font, mais moi, par exemple, quand je peignais, là, au tout début, je mettais une série, par exemple, sur Netflix. Regardable en faisant autre chose, j'aime bien dire ça.
Ouais.
Genre un truc comme ça, vite fait, et puis et c'est juste pour avoir un bruit de fond, tu sais, des fois tu regardes comme ça.
Friends, quoi.
En fait, c'est je reviens à ça, tu sais, quand je racontais quand je travaillais, enfin quand je dessinais sur la table de ma cuisine en regardant la télé.
Oui, oui.
Mais j'aime bien faire ça en fait.
Ouais, non, mais moi aussi, hein.
C'est vraiment un bruit de fond comme ça, et puis tu danses. Mais si je veux faire un truc vraiment genre, vas-y, je fais ça, je suis focus, j'écoute la musique en général.
Ok.
Nicki Minaj. Non, mais c'est marrant parce que après. Nicki Minaj, c'est assez particulier. Enfin, moi, j'aimerais qu'on me dise pourquoi je suis fan de Nicki, parce que moi, je sais pas moi-même,
tu sais
en
pas.
Fait. Non, pas du tout. Non, mais vraiment. Alors,
vraiment, je peux pas t'aider là.
Non, mais.
Je sais pas du tout comment on peut être
Nicki Minaj. Non, en fait, Nicki, en fait, c'est surtout le personnage en fait, mm-hmm. que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en elle qui m'inspire. Tu sais qu'à chaque fois que j'écoute une musique de Nicki Minaj. Parce que moi, j'ai découvert Nicki Minaj il n'y a pas très longtemps, finalement. En fait, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de peindre, j'ai envie de créer des trucs. Mm. C'est hyper bizarre, je sais.
Non, bah, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi Nicki Minaj,
ouais,
mais je comprends très bien le principe.
Je sais pas pourquoi Nicki Minaj, j'ai trouvé son Nicki Minaj, bah voilà, c'est comme ça. Et en fait, à chaque fois que je l'écoute ou que je la vois, enfin, tu vois, parce que moi, en fait, quand j'aime bien un artiste, en général, je regarde ses interviews, genre de trucs.
Ouais.
Bah je me suis attachée à elle, ouais. Finalement, je suis devenue fan. Et à chaque fois du coup que j'écoute du Nicki Minaj, je sais pas, c'est devenu pour moi, genre c'est vraiment, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des trucs, enfin. Après tu vois, et c'est marrant parce que Nicki Minaj tu vois c'est du rap, et j'écoutais pas du tout de rap avant, mais pour moi c'était genre un truc que j'aimais pas du tout.
Ouais. Alors,
et ben j'ai aimé le rap grâce à elle, et je me suis intéressée à ça, et au final je me suis intéressée à tout ce qu'il y a autour.
T'as
en fait.
T'as découvert d'autres artistes.
Voilà, truc. Mais en fait du coup c'est des artistes plus, tu vois, un peu modernes, enfin de nos temps en fait. C'est ça en fait le truc, c'est que j'ai pas vraiment de référence à part Elvis Presley, Johnny Cash, Johnny Hooker.
Ouais, c'est pas le même délire. Hein.
Non, c'est pas le même délire, parce que moi quand j'étais petite, mon père il était fan de blues, tu vois, il écoutait beaucoup Ray Charles, Elvis Presley, Little Richard. J'écoutais ça dans la voiture pendant qu'on allait chez mes grands-parents, tout le temps, tu vois. Donc moi, j'étais très blues, en fait. Beaucoup de blues. Et rock pour Elvis. Mais au-delà de ça, j'ai jamais été musique, chantée avec des paroles, tu vois.
D'accord.
J'écoutais énormément de BO, tu vois, de films. Moi, c'était ça, mon délire. C'était vraiment... J'écoutais que ça. S'il y avait des paroles, j'aimais pas, en fait. Et après, ça a basculé, et au final, j'ai découvert des artistes, et puis voilà.
Et les films des années 80, c'est pourquoi ?
Alors, pareil, je sais pas comment ça m'est venu. En fait, je pense que c'est la partie de Tortue Ninja, en fait, qui m'a donné envie. C'est-à-dire que mon copain est hyper fan des Tortue Ninja, de Robocop d'ailleurs aussi, et des trucs, tout ce qui touche aux années 80. Et en fait, je me suis dit, pour son anniversaire, je vais lui faire une peinture des Tortue Ninja, finalement. Je pense que ça lui ferait plaisir, parce que lui aussi, il a un côté artiste. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'au travail... tous les midis et des fois le matin avant de travailler, 2 heures avant de travailler parce que la peinture c'est long, je me suis dit bah je vais peindre
et puis une photo. C'était un cadeau donc
il
fallait faire des
photos. Bah ouais c'est ça, je pouvais pas le faire à la maison puisqu'il allait le voir et moi je voulais vraiment que ça soit une surprise. J'adore faire des surprises, vraiment j'adore ça. Donc je me suis dit ouais je vais lui faire une super surprise, non il faut que je le fasse au travail. Donc j'ai installé un petit atelier dans une salle qui était vide et j'ai fait ça pendant 3 semaines parce que tu vois tous les midis c'est 1 heure, c'est pas long tu vois, donc j'ai avancé quand même petit peu par petit peu quoi. Et le week-end, je pouvais pas la faire parce qu'elle était au travail. Et du coup, je lui ai offert pour son anniversaire. Il était super content. Et moi, après, je l'ai posté. Alors, du coup, comme je m'étais fait un compte Instagram pour suivre les artistes que j'aimais bien.
Tu t'es dit, bah, je vais la poster.
Bah voilà. Après, j'ai posté d'autres dessins, tu vois. Parce que quand je me suis fait un compte Instagram, c'est comme tous les réseaux sociaux, t'as envie de montrer ce que tu fais. Tu vois, puis j'avais des tas de dessins, hein, tu vois, depuis que je dessine. Donc, je me dis, bah tiens, je vais prendre ceux que j'aime bien et puis je vais les poster, tu vois. Et au final, voilà, donc j'ai posté les tortues. Bon, les gens ont bien aimé. J'ai même posté sur Reddit un moment. Mmh. Et il y a certaines personnes qui m'ont demandé si elle était à vendre, tu vois.
Ouais.
Je me suis dit, ah bah non, elle est pas à vendre.
Ouais.
Non, non, bah moi je disais que c'était un cadeau, tu vois. Et puis, enfin, les gens étaient intéressés. Alors je me dis, tiens, ça peut être pas mal de. Bah, je sais pas, de faire des films des années 80. Puis moi, j'ai quand même énormément aimé faire cette peinture.
Mmh.
Je me suis éclatée, c'était fun, c'était reposant, enfin. Voilà, c'était vraiment cool, même si je suis pas hyper fan des tortues, voilà, oui, voilà, je suis pas fan des tortues, mais c'était cool à faire, et du coup, je me dis, ça peut être intéressant de, tu vois, de faire d'autres peintures comme ça, des films des années 80,
thématique-là.
Et que j'aime bien, moi, les films des années 80, 90, j'adore, tu vois, les classiques, genre Jurassic Park, Ghostbusters,
c'est 90, hein.
Ouais, bah oui, 90, 80, j'ai dit,
ouais.
Donc tu vois, tout ça, je me suis dit, putain, ce serait cool. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de prendre une scène tirée du film et de la faire en peinture, en fait. Pas juste une image, je trouve, sur Google Images, tu vois. Genre, moi, j'aime bien aussi faire, tu vois, genre, en plus, comme tu vois, je suis l'animation, faire un moment clé du film.
Oh, oui, qui raconte quelque
une,
chose.
Avec une belle pose, ouais,
mais
tu vois.
C'est pour ça que c'est drôle que l'image que tu as choisie des Tortues Ninja, tu pensais que c'était un
moment
du film, mais c'est pas un moment du film.
Mais c'est fou. Mais en plus, je l'ai vu, ce film, tu vois. Il était marrant. C'est marrant.
Puis
en plus,
bien, hein.
Mais oui, puis en plus, avec les costumes, enfin, franchement, c'est génial.
Il est génial, ce film.
Oui.
Il ne pourrait pas exister aujourd'hui, en fait.
Oh non, il pourrait pas. Bah non, ce serait trop cheap. Les gens, ils trouveraient, c'est quoi ça?
En fait, moi, je dirais pas ça, parce que moi, je trouve plus vivante que les celles de Michael Bay, par exemple, qui sont en
3D. Mais
c'est plus au niveau de ce que ça raconte. C'est un film pour enfants qui est hyper sombre. C'est hyper sombre, en fait. C'est hyper dark.
Mais justement, moi, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Parce que moi, je ne l'ai vu qu'une fois. C'est Florent qui m'a fait... Ouais, Florent, il m'a fait découvrir plein de films des années 80. Robocop, c'est son film par excellence. Tortue Ninja, pareil. Donc du coup, moi, il m'a fait découvrir tout ça. Avant, je ne regardais pas, moi, tout ça. Et je ne me souvenais pas qu'il n'y avait pas cette scène, en fait. Enfin, pour moi, quand j'ai tapé Tortue Ninja sur Google pour trouver un truc sympa, j'ai vu cette image, je me suis dit, mais elle est parfaite, cette image. Il y a tout de mignon, enfin la scène, la mise en scène, tout ça, l'éclairage, il est parfait. Ça pourrait faire, je la voyais trop en peinture, en plus. Et comme ça faisait scène de film, ça faisait clairement, j'ai fait pause et puis voilà quoi. Je me suis dit, elle est dans le film, puis au final non
elle
est pas dans le film.
On va passer à la dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil aux jeunes qui écoutent et qui apprennent à dessiner, un conseil pour apprendre à dessiner? Ou apprendre peut-être à aller un peu plus loin, justement, peut-être faire de la peinture. Tu peux répondre à la question que tu veux, en fait.
qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire, c'est que si les gens qui apprennent à dessiner, en fait, il faut pas qu'ils se... Parce que tu sais, quand t'apprends à dessiner, des fois tu peux regarder des tutos et tout, mais il faut pas justement qu'ils se cantonnent à ça, en fait. Chaque personne, en fait, a son style propre.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Il faut pas se dire, ah, c'est comme ça qu'on dessine, ah non, c'est comme ça qu'on dessine. Tu vois, parce que des fois, forcément, même les tutos de peinture, les artistes vont apprendre leur manière de peindre ou de dessiner, parce que, bah voilà, ils savent faire comme ça, tu vois, donc eux, ils t'apprennent, tu vois, pédagogiquement, comment il faut faire. Mais c'est juste une base, en fait. Après, il faut savoir, en fait, tirer parti de tout ça pour justement s'exprimer son style, tu vois, totalement, tu vois.
Bah, je pense que les gens qui regardent des tutos, ils sont à la recherche de techniques.
Ouais.
Pour pouvoir après s'exprimer, enfin, j'imagine que...
Bah, en fait, pour les gens qui apprennent à dessiner, vraiment, moi, je te parle vraiment de la personne qui se met dans le dessin.
Ouais, ouais.
Faut pas qu'elle se dise, moi, je vais dessiner comme lui, alors je vais faire... C'est pas possible, en fait. Même moi, une peintre que j'adore, je veux absolument avoir son style, j'aurai jamais son style.
Mais pour le coup, elle t'inspire, elle te motive, parce
elle
que
m'inspire,
tu peux voir un objectif à atteindre, je voudrais dessiner comme lui.
C'est ça.
Mais au final, tu le feras pas, et c'est très bien.
Mais il n'y a pas une manière de dessiner, genre, c'est comme ça qu'on dessine, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est aux gens d'essayer. Moi, je conseille vraiment à fond, c'est ce que j'ai fait depuis toujours, c'est essayer. Toujours essayer des médiums différents, peinture, aquarelle, gouache, pastel, n'importe quoi, Photoshop, vraiment tout. Même si ça marche pas au début, parce que ça va pas marcher au début. Hein. Mm-hmm. Au début, vous avez, sur 10 dessins, il y en a 8, ça va être nul. Mm-hmm. Et dans les 2, ça va faire, oh, c'est intéressant ça. Ouais, tiens, je vais aller par là plutôt. Puis il faut être à l'aise aussi, tu vois. Il faut pas se cantonner à juste dire, ah bah moi, c'est comme ça que je vais dessiner. Ah non, lui il a dit qu'il faut faire comme ça, alors c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Non, chacun a une façon différente de dessiner, comme chacun a une façon différente de tenir son crayon, tu vois.
Ouais. Ok.
Ouais, voilà.
Bah, c'est cool.
Si c'était un super conseil.
Bah, si, c'est super, voilà. C'est cool. Merci beaucoup.
Bah, merci.
Bah, merci pour cette interview, c'était super et ça a duré hyper longtemps.
Combien?
Bah, je sais pas, plus d'une heure, on en est à...
Sérieusement? Ouais, oh la vache.
On est à 1h15.
Je pense que tu vas devoir couper...
Non, je vais rien couper parce que c'était vraiment super. sérieusement, hein, je pense qu'on va tout garder.
Ah ouais? Je sais pas, après, il y a dit... Ouais.
Et écoute, je vais mettre tous les liens de ton Insta et puis t'as pas de site?
Bah, j'ai une page Facebook, mais après, c'était histoire de faire une page.
Ouais, ok.
C'était pour pas faire chier les gens, tu vois, dans leur fil.
Ah oui, oui. Ok, bon, bah alors, je mettrai tes liens en tout cas dans la description.
Ça marche.
Et merci encore pour le tableau de Michael.
Attends de voir ça fini.
Donc si les gens ils ont des commandes, il y a de faire et ils pourront alors.
Alors et honnêtement, t'es le premier à me passer commande. Et moi ça me faisait un peu peur parce que comme je commence la peinture à l'huile depuis pas longtemps, je me suis dit est-ce que ça va plaire aux gens ce que je fais. Mais oui, l'idée c'est que à terme j'aimerais bien faire des petites commandes, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que si ça tourne autour du.
Si ça reste dans ta thématique, c'est
film
cool.
Film des années 80 ouais. Et tout, tu vois.
Ouais, c'est cool.
C'est cool. Bah après j'ai d'autres projets que ça, tu vois, mais
ouais mais pour enfin, l'instant c'est
on peut en parler sinon on va être
oui mais on va repartir
podcast,
encore là
tu vas pas durer 2 heures.
Bon bah c'est enfin, cool ouais. Merci beaucoup
et ben merci à toi.
Merci encore Sophie pour cette interview et merci pour le tableau magnifique que tu as fait. Alors malheureusement Sophie va pas pouvoir faire de tableau à la peinture à l'huile à gagner pour le mois prochain, mais il y a néanmoins un magnifique dessin qui est sous mes yeux et que vous pourrez trouver dans le blog du post du podcast. Pour gagner ce dessin, c'est très simple, il vous suffit de liker, commenter et partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je tirerai au sort le gagnant lors du prochain podcast. Et d'ailleurs, on y va pour le tirage au sort du dernier podcast de Anna Lubinsky. Benny Boudreau. Wouh, Benny Boudreau, si t'écoutes, envoie-moi tes coordonnées sur Facebook ou sur Insta, tu recevras ton dessin très vite. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Merci encore et à bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.